Il nous reste donc à régler ce qui regarde le chant et la mélodie. Oui, Socrate. Or, qui ne verrait déjà quelles règles nous devons prescrire sur cette matière pour être conséquents à nos principes? Moi, qui pourrais bien faire exception, reprit Glaucon en souriant. Car pour le moment, Socrate, je ne suis pas en état de faire des conjectures sur ce que nous devons dire, quoique je l'entrevoie confusément. Mais certainement tu es du moins en état de nous dire que le chant a trois éléments, Glaucon. Les paroles, l'harmonie et le rythme. Oh, pour cela, oui, Socrate. Sans doute, les paroles chantées n'échappent pas plus que les autres aux règles de composition que nous avons prescrites. Non, Socrate. Il faut aussi que l'harmonie et le rythme répondent aux paroles. Oui. Mais nous avons dit qu'il fallait bannir du discours les plaintes et les lamentations. Nous l'avons dit avec raison. Quelles sont les harmonies plaintives, Glaucon? Dis-le-moi, car tu es musicien. C'est la lydienne mixte et l'aigu, et quelques autres semblables, Socrate. Il faut donc laisser de côté ces harmonies, qui, loin d'être bonnes pour les hommes, ne le sont pas même pour des femmes d'un caractère honnête. Oui, Socrate. Rien n'est plus indigne des gardiens de l'État que l'ivresse, la mollesse et l'indolence. Sans contredit, Socrate. Et quelles sont les harmonies molles et usitées dans les festins? L'ionienne et la lydienne, qu'on appelle harmonies lâches, Socrate. Peuvent-elles être de quelque utilité pour des gens de guerre? D'aucune utilité. Ainsi, il pourrait bien ne te rester que les harmonies doriennes et phrygiennes, Socrate. Je ne me connais pas en harmonie, mais laisse-nous ce mode qui saurait imiter le ton et les mâles accents de l'homme de cœur qui, jeté dans la mêlée ou dans quelque action violente, et forcé par le sort de s'exposer aux blessures ou à la mort, ou bien tombant dans quelque autre malheur, dans toutes ces situations, reçoit de pied ferme et sans plier les assauts de la fortune ennemie. Laisse-nous encore un autre mode, qui le représente dans des pratiques pacifiques et toutes volontaires, invoquant les dieux, enseignant, priant ou conseillant ses semblables, ou se montrant lui-même docile aux prières, aux leçons et aux conseils d'autrui, et ainsi n'éprouvant jamais de mécompte. Comme ne s'enorgueillissant jamais, toujours sage, modéré et content de ce qui lui arrive. Ces deux modes d'harmonie, l'un énergique, l'autre d'un mouvement tranquille, qui imiteront parfaitement les accents de l'homme courageux et sage, malheureux ou heureux, voilà ce qu'il faut nous laisser. Eh bien, les harmonies que tu veux garder sont précisément celles que je viens de nommer. Ainsi, nous n'aurons pas besoin dans nos chants et notre mélodie d'instruments à cordes nombreuses et qui rendent toutes les harmonies. Je ne le crois pas, Socrate. Et nous n'aurons pas à entretenir des ouvriers pour fabriquer des triangles, ni des pectisses, et tous ces instruments à cordes nombreuses et à plusieurs harmonies. Il y a apparence. Admettras-tu dans notre état le joueur et le faiseur de flûte? Cet instrument n'équivaut-il pas à celui qui aurait le plus de cordes, et même ceux qui rendent toutes les harmonies? Que sont-ils autre chose que des imitations de la flûte? Sans doute. Ainsi pour la ville, nous garderons comme instruments utiles la lyre et le luth, et à la campagne, les bergers auront les pipeaux. Oui, c'est une conséquence naturelle. Au reste, mon cher ami, nous ne faisons rien de si extraordinaire en préférant Apollon à Marsyas, les instruments du dieu à ceux du satyre. Par Jupiter, je ne le pense point, Socrate. Mais je te jure que, sans nous en apercevoir, nous avons bien réformé cet état qui, à nous entendre tout à l'heure, regorgeait de délices. Et nous avons très bien fait. Achevons alors notre réforme. Après l'harmonie, parlons du rythme. Et convenons de n'y point rechercher des variations et des mesures de toute espèce, mais les mesures qui répondent à celles d'une âme sage et courageuse. Ce point fixé, exigeons que le nombre, ainsi que la mélodie, soient dans la dépendance des paroles, telles que nous les voulons, et non les paroles dans celles du nombre et de la mélodie. C'est à toi de nous dire quel est le rythme qui nous convient, comme tu as fait pour l'harmonie. En vérité, je ne puis te satisfaire, Socrate. Je te dirais bien, comme ayant étudié cela, que toutes les mesures se réduisent à trois temps, comme toutes les harmonies résultent de quatre tons principaux. Mais je ne saurais te dire quelle mesure exprime telle ou telle situation de la vie. Eh bien, nous examinerons dans la suite, avec Damon, quelles mesures expriment la bassesse, l'insolence, la fureur et les autres vices, ainsi que celles qu'il faut garder pour les vertus opposées. Je crois l'avoir entendu parler, sans bien le comprendre, de certains maîtres qu'il appelait celui-ci Énople, lequel était composé de plusieurs autres, celui-là Dactyle, cet autre Héroïque. Je ne sais comment il les arrangeait et les soutenait au moyen de longues et de brèves. Il parlait encore, à ce que je crois, de l'iambe et du trochée, pressant et ralentissant la mesure. Je crois aussi qu'il approuvait ou condamnait, quelquefois, chaque maître, autant que le rythme lui-même, ou je ne sais quoi qui résulte de l'un et de l'autre, car je ne puis bien te dire ce que c'est. Mais remettons, comme j'ai dit, à conférer là-dessus avec Damon. Cette discussion demande en effet beaucoup de temps, n'est-ce pas? Oui, certes, Socrate. Tu peux du moins nous dire que l'agrément se trouve où est la beauté du rythme, et son contraire où cette beauté n'est pas. Sans doute, Socrate, mais la beauté du rythme et de l'harmonie est reproduite en limitant celle des paroles, de même que des paroles sans beauté suivent un rythme et une harmonie analogues. Car nous avons dit que le rythme et l'harmonie sont faits pour les paroles, et non les paroles pour le rythme et l'harmonie. Oui, l'un et l'autre doivent suivre le discours. Mais la manière de dire et le discours lui-même ne sont-ils pas l'expression de l'âme? Oui. Et tout le reste ne se confond-il pas dans la même expression avec le discours? Oui. Ainsi, la beauté des paroles, celle de l'harmonie et du rythme, ainsi que l'agrément, servent d'expression à la bonté de l'âme. Et je n'entends pas par ce mot la stupidité qu'on appelle, par une espèce d'adoucissement, bonhomie. J'entends un vrai caractère moral de bonté et de beauté. À merveille. Les jeunes guerriers doivent-ils, pour remplir leur destination, aspirer à réunir ces qualités? Oui, Socrate. Du moins, cette réunion semble-t-elle le but des beaux-arts, tels que la peinture, et des autres arts, tels que celui du tisserand, du brodeur ou de l'architecte. Celui même de la nature dans la production des corps et des plantes. Car là se rencontrent partout l'agrément et son contraire. Toujours est-il que le défaut d'agrément, de rythme et d'harmonie est la marque ordinaire d'un esprit et d'un cœur mal fait. De même que les qualités opposées sont l'image et l'expression de l'âme pleine de sagesse et de bonté. Assurément. Suffira-t-il de veiller sur les poètes et de les contraindre de nous offrir dans leurs vers un modèle de bonnes mœurs, sinon de renoncer parmi nous à la poésie? Ne faudra-t-il pas encore surveiller les autres artistes et les empêcher de nous offrir dans les représentations des êtres vivants, dans les ouvrages d'architecture ou de quelque autre genre, une imitation vicieuse, dépourvue de correction, de noblesse et de grâce, et interdire à tout artiste incapable de se conformer à cette règle l'exercice de son art, dans la crainte que les gardiens de l'État, élevés au milieu des images d'une nature dégradée, comme au sein de mauvais pâturages, et y trouvant chaque jour leur entretien et leur nourriture, ne finissent par contracter peu à peu, sans s'en apercevoir, quelques grands vices dans leur âme. Ne devrons-nous pas au contraire rechercher ces artistes qu'une heureuse nature met sur la trace du beau et du gracieux, afin que, semblables aux habitants d'un pays saint, les jeunes guerriers ressentent de toutes parts une influence salutaire, recevant sans cesse, en quelque sorte par les yeux et les oreilles, l'impression des beaux ouvrages, comme un air pur qui leur apporte la santé d'une heureuse contrée, et les dispose insensiblement, dès leur enfance, à aimer et à imiter le beau, et à mettre entre eux et lui un parfait accord. Ces précautions rendraient leur éducation excellente, Socrate. Si la musique, mon cher Glaucon, est la partie principale de l'éducation, n'est-ce pas parce que le rythme et l'harmonie ont au suprême degré la puissance de pénétrer dans l'âme, de s'en emparer, d'y introduire le beau et de la soumettre à son empire quand l'éducation a été convenable, au lieu que le contraire arrive lorsqu'on la néglige. Le jeune homme, élevé convenablement par la musique, ne saisira-t-il pas avec une étonnante sagacité ce qu'il y a de défectueux et d'imparfait dans les ouvrages de l'art et de la nature? Et n'en éprouvera-t-il pas une impression juste et pénible? Par cela même, ne louera-t-il pas avec transport ce qu'il y a de beau? Ne le recueillera-t-il pas dans son âme pour s'en nourrir et devenir par là homme vertueux, tandis que tout ce qui est laid sera pour lui l'objet d'un blâme et d'une aversion légitime, et cela dès la plus tendre jeunesse, avant de pouvoir s'en rendre compte au nom de la raison, de cette raison que plus tard, lorsqu'elle arrivera, il accueillera avec tendresse, parce qu'en vertu du rapport intime qui se trouve entre elle et l'éducation qu'il a reçue, elle lui apparaîtra sous des traits familiers. Tels sont en effet les avantages que l'on attend de l'éducation par la musique, Socrate. Par exemple, quand nous apprenons la lecture, nous ne sommes suffisamment instruits que lorsque nous savons reconnaître le petit nombre de lettres élémentaires dans toutes leurs combinaisons, dans toutes les phrases grandes et petites, sans en dédaigner aucune, et lorsqu'au contraire nous nous attachons à les distinguer parfaitement partout où elles se rencontrent, persuadé que c'est le seul moyen de devenir jamais grammairien. Cela est vrai. Et encore, si nous ne connaissons pas les lettres en elles-mêmes, jamais nous n'en reconnaîtrons l'image représentée dans les os ou dans les miroirs, car tout cela est l'objet du même art et de la même étude. Sans contredit, Socrate. Par les dieux immortels, ne puis-je donc pas dire de même que jamais nous ne serons musiciens, ni nous, ni les guerriers que nous nous proposons de former, si, en présence de la tempérance, de la force, de la générosité, de la grandeur, des autres vertus, leurs sœurs, et des qualités contraires partout répandues, nous ne sommes pas en état de reconnaître chacune d'elles partout où elles se rencontrent, non seulement en elles-mêmes, mais dans leurs images, sans en dédaigner une seule, grande ou petite, persuadé que tout cela est l'objet du même art et de la même étude. Nous ne pouvons pas dire autrement, Socrate. Le plus beau des spectacles pour quiconque pourrait le contempler, ne serait-il pas celui de la beauté de l'âme et de celle du corps unies entre elles, et dans leur parfaite harmonie? Assurément, or, ce qui est très beau est aussi très aimable. Oui, le musicien aimera donc d'un vif amour les hommes qui lui offriront ce spectacle, et ceux qui ne lui offriront pas cette harmonie, il ne les aimera pas. J'en conviens, si l'âme a quelques défauts. Mais si c'est le corps, le musicien ne dédaignera pas pour cela d'aimer. Je vois que tu aimes ou que tu as aimé est un semblable objet d'amour. Je te le pardonne volontiers. Mais dis-moi, l'abus des plaisirs s'accorde-t-il avec la tempérance? Comment cela pourrait-il être, puisqu'il ne trouble pas moins l'âme que l'excès de la douleur? Et avec les autres vertus, pas davantage? Ne s'accorde-t-il pas plutôt avec l'emportement et la licence? Plus qu'avec toute autre chose, Socrate. Connais-tu un plaisir plus grand et plus vif que celui de l'amour sensuel? Non, je n'en connais pas même où il y ait plus de fureur. Au contraire, l'amour qui est selon la raison est un amour sage et réglé, du beau et de l'honnête. Certainement, Socrate, ni la folie ni la licence ne doivent t'approcher de cet amour raisonnable. Non. Par conséquent, la volupté n'en doit pas approcher, et ceux qui s'aiment de l'amour raisonnable doivent la bannir de leur commerce. Assurément, mon cher Socrate. Ainsi, dans l'état dont nous traçons le plan, tu ordonneras par une loi expresse que les marques de tendresse, d'union, d'attachement que la personne aimée permettra à l'amant de lui donner soient de même nature que celles qu'un père donne à son fils, toujours pour une fin honnête, et qu'en général, l'amant, dans le commerce qu'il aura avec l'objet de son amour, ne laisse jamais soupçonner qu'il ait été plus loin, s'il ne veut pas encourir le reproche d'homme sans éducation et sans délicatesse. Oui, Socrate. Te semble-t-il comme à moi qu'il ne nous reste plus rien à dire sur la musique? Cette discussion, en effet, a fini par où elle doit finir. Il est naturel que ce qui se rapporte à la musique aboutisse à l'amour du beau. Je suis de ton avis, Socrate. Après la musique, c'est par la gymnastique que nous élèverons les jeunes gens. Sans doute.